Alors communiquez.
Il est un de tes noces. Il sera trop tard pour le regretter. Chante, danse, baby pop. Comme si demain, baby pop ne devait jamais, baby pop, jamais revenir. Chante, danse, baby pop. Comme si demain, baby pop, au petit matin, baby pop, tu devais mourir.
Tu ne peux ignorer les dangers. Se lever,
yeah, yeah, yeah.
Quelque part sur la terre, les balles sifflent, le sang est versé.
Chante, danse, baby pop. Comme si demain, baby pop, ne devait jamais, baby pop, jamais revenir.
Intéressé à l'organiser. Est-ce que c'est avant ou après les événements?
Alors oui, c'est après, parce que le livre, je l'ai écrit en... J'ai commencé fin 2008 le livre. Bah, je me suis intéressé à Nordazir parce que c'est le seul groupe français qui est un petit peu important, qui soit apparu depuis les années 80, qui ait duré, qui a une vraie œuvre. Qui a une vraie œuvre qui s'est arrêtée net, qui a été tuée dans...
C'est quoi de dire ?
Voilà, qui a été tuée, pas tuée dans l'œuf, mais qui s'est arrêtée net et qui était partie pour...
Pour la gloire, comme disait une de ses chansons.
Ouais, et puis pour une certaine évolution, dans une certaine direction, qui allait un peu vers
plus
Bachung.
Techno, ouais, plus techno.
Ouais, parfois dans les arrangements plus techno, ouais. Mais dans les textes, ça allait vers Léo Ferré, vers Bachung, ouais, ça prenait...
Il reprenait des chansons, ouais. Les arbres...
C'était un texte inédit de Ferré, ouais. Donc il y a ce parcours, et puis en même temps toujours il y avait des points communs avec mon propre parcours, parce qu'on a commencé à peu près en même temps les Désaxés et Noir Désir, et ça m'intéressait de faire le parallèle entre un groupe qui marche et un groupe qui ne marche pas, et d'essayer de comprendre pourquoi des artistes ont du succès et d'autres n'en ont pas.
Le charisme.
Et il y a plein de choses, il y a le charisme, il y a surtout, avant tout, c'est la volonté d'y arriver. Et je pense que Noir Désir, à la base, c'est quatre mecs, comme tous les groupes qui marchent, c'est quatre mecs qui veulent réussir, qui
des Lyonnais, hein.
des Bordelais.
Bordelais, ok.
Et si tu veux, c'est des gens qui sont différents, qui viennent de milieux sociaux un peu différents. Il y a un fils de militaire, un fils de commerçant.
Fils de commerçant, c'est Quentin.
C'est le batteur.
Ok.
Fils de militaire, c'est Quentin, comme okay. Jim Morrison.
Ok.
Ouais.
Et puis, toi, ce qui t'a intéressé, c'est
le parcours, les hommes.
À vous, contrairement à Noir Désir. Qu'est-ce qui a fait que Noir Désir a réussi et vous non?
Voilà, enfin, nous et plein d'autres. Pourquoi il y a un groupe pour chaque génération qui fonctionne? Et pourquoi il y en a 10 000 qui disparaissent? Et Noir Désir, en racontant leur histoire, je montre pourquoi. Pourquoi eux, il y a une part de chance? Parce qu'au départ, ils sont pas bons. Ils sont pas bons, hein. C'est beaucoup de travail. Non. Avant, en 80, quand ils commencent, ils sont pas bons. J'ai écouté des
maquettes.
J'ai retrouvé, pas des maquettes, mais j'ai retrouvé des émissions des Enfants du Rock de 82, où ils sont filmés à Bordeaux. Et c'est rigolo parce que c'est une période où Quentin est viré du groupe. Et parce que en fait il était à l'époque avec une petite amie très possessive qui voulait qu'il arrête le groupe, et comme il était très amoureux d'elle, il avait dit ok, j'arrête.
Okay. Ah, mais et... c'est pas le groupe qui l'a foutu dehors, c'est en fait.
Non, mais le groupe était sans chanteur.
Okay,
et
okay.
Après il est revenu.
Okay.
Et en fait tu t'aperçois que là ils sont pas mal, mais là ils sont encore comme 10 000 autres groupes français.
Ils sont à la recherche de leur son.
Voilà. Et c'est après que ça devient exceptionnel.
C'est après le premier album.
Ouais, déjà le premier album est bien. Ouais, déjà, mais je parle du ses titres. Le premier, ses titres, déjà, il est pas mal. Hein.
Ok. Et puis qui s'appelle Où tu veux que je regarde?
Je crois que c'est ça. Ouais. Déjà, il est pas mal. Il est pas mal.
Extraordinaire pour l'époque. Si tu places plusieurs albums de l'époque, ça se démarque.
Il y avait Gamine que j'aimais beaucoup à l'époque aussi.
Okay.
Et Gamine, c'est pareil, c'est à mettre en parallèle aussi parce que c'est des Bordelais. Il commence.
C'est disponible, Gamine.
Plus maintenant.
Ok, toi, oui, tu les as.
Moi, je les ai, ouais. Mais alors, Gamine, c'est intéressant parce qu'il démarre en même temps que Noir Désir. Il signe un contrat chez Barclay avant Noir Désir. Noir Désir les rejoint chez Barclay après. Et en fait, alors que Gamine avait tout pour réussir, des morceaux plus pop, etc. Ils avaient des belles gueules, c'était des beaux mecs. Ils vont se séparer au bout de deux albums à cause de problèmes internes. Et c'est tous les problèmes que sauront éviter Noir Désir. Parce que par exemple, il y a un truc très fort chez Noir Désir. Ils ont, par rapport à la scène bordelaise, ils n'ont jamais trempé dans la dope. Parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup d'héroïne. J'ai étudié le problème à Bordeaux. Tous les groupes y ont touché. Et les seuls qui n'y touchaient pas, parce qu'ils étaient un peu en retrait, ils répétaient, ils travaillaient. Ils étaient considérés comme un petit peu snob parce qu'ils restaient dans leur coin. Et du coup, ils ont évité tous les problèmes de drogue. Et c'est aussi pour ça que, bon, après il y a l'alcool, ça c'est autre chose, mais c'est pour ça aussi qu'ils ont duré aussi longtemps. Ça c'est vachement intéressant quand tu analyses les parcours des groupes.
Mais Gamine, c'est juste des vinyles qui existent, c'est pas des CD?
Non, ils sont sortis en CD aussi. Parce que
ça c'est disponible, si on cherche sur internet.
Ouais, donc une occasion peut-être, ouais.
Okay.
Ouais.
Okay. Et toi t'en as quelqu'un d'autre?
Ah ben j'ai les deux, ouais.
Ah ok, ouais. Et puis, tranquillement, Noir Désir, c'est pas tranquillement, un jour il est arrivé ce qu'il est arrivé. Et crois-tu que le groupe reviendra?
Je pense qu'ils vont revenir. Ça va être long, ça va être compliqué, mais ils vont revenir pour l'état de raison, parce que de toute façon c'est leur métier, c'est des musiciens, c'est leur métier, même s'ils font d'autres choses à côté.
Ils n'ont pas le choix parce que le groupe n'existe plus, il faut bien ramener du bleu.
Non, mais ils travaillent à côté.
Oh, mais heureusement.
Ils travaillent tous. Serge a beaucoup de groupes en parallèle, le batteur aussi, le bassiste aussi. Mais leur aventure, c'est quand même Noir Désir, donc ils reviendront. En plus, ils ont un contrat avec Barclay, ils ont des... Ils ont des disques à sortir, donc ils reviendront, mais c'est... Comme je l'ai dit plein de fois dans les interviews, il faut remettre la machine créative en route, il faut remettre le processus en route.
Ce qui aurait mis peut-être un clou, c'est la mort de sa femme, le suicide de sa femme, ça anéantit. Il doit s'occuper de ses enfants.
Ouais. Et moi, je commençais à reprendre un petit peu espoir, etc.
Et c'est vrai que c'est. Sorti deux titres, dont Le Temps des Cerises, qui est extraordinaire à mon avis. Là, c'est vraiment. C'est très rock, très, très bien mené. Puis la mort de sa femme, on reprend à zéro. Hein.
Ouais, ça complique.
Puis, il ne pouvait pas écrire non plus parce que il y a une loi qui interdit.
Ouais. Voilà. Juridiquement, quand tu as. Pas purger la totalité d'une peine de prison, tu peux pas écrire sur les faits qui t'ont condamné. Donc il peut écrire, mais sur d'autres sujets.
Là, il peut, là, actuellement, là. C'est ce qu'on m'a dit.
Alors, actuellement, je pense que la peine maintenant est terminée.
C'est ça.
C'est vrai que bon, un auteur, ça écrit sur des choses qui lui sont arrivées, sur les choses personnelles. Donc c'est vrai que c'est difficile d'imaginer qu'il n'écrive pas sur le sujet d'une façon ou d'une autre.
Les gens l'attendent.
Hein. Alors ils l'attendent pour des bonnes et des mauvaises raisons, oui.
Et les gens vont l'aimer sans doute pour les mêmes raisons que d'autres vont l'haïr. Tu fais qu'ils vont prendre cet événement-là, puis ils vont peut-être en faire un peu de bidou, un peu d'affaire.
Disons qu'ils ne seront plus jamais jugés comme un groupe qui sort un album.
C'est terminé.
Ils seront toujours jugés à l'aune de cette soirée fatale. Ouais.
On m'a dit que si un jour un album arrivait, ce serait vraiment des ventes extraordinaires. Même si l'album n'est pas très bon. Parce que c'est Noir Désir.
Soit il y aura un boycott, soit il y aura un boycott énorme, soit effectivement il y a une attente énorme. Qui va aboutir à des ventes énormes.
Qu'est-ce qui t'amène d'écrire, de te voir à travers les artistes et en même temps d'écrire des nouvelles, des recueils, des romans? Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu dis, là aujourd'hui, je vais écrire une nouvelle qui n'a aucun lien avec un artiste et à un moment donné, tu te lèves et tu dis, là, je vais parler de, je sais pas, de Gainsbourg. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que...
Alors ça, c'est très simple, c'est simplement les contrats.
Donc, ah ok, voilà. Parce que c'est trop, ces quatre livres-là, c'est des contrats. On t'a dit, veux-tu écrire pour François Zardy?
Voilà, en fait, avec un éditeur, tu as un dialogue.
Ok, mais je croyais que tu avais écrit, après ça, tu avais proposé ça à des éditeurs.
Ça dépend. Okay. C'est François Zardy, on me l'a proposé, et comme c'est une artiste qui m'intéresse, j'ai dit oui tout de suite. Et sinon, c'est un dialogue. Parfois, c'est moi qui amène l'idée. Parfois, c'est Bachung, on me l'avait déjà proposé.
Et Bachung, c'est en quelle année?
Bachung, je l'ai écrit en fait. Je l'ai écrit en fait en 2009, après sa mort, après son décès.
Ok. Alors, tu l'as écrit rapidement, combien de temps?
De toute façon, j'écris toujours rapidement. En général, j'écris un livre en 3 mois. Parce que...
Est-ce que tu fais un schéma ou au contraire, tu écris librement sans avoir de contraintes de, ah oui, il faut pas que ça.
Non, disons que dans une biographie, de toute façon, le schéma, il est, pour moi, il est fait assez vite. C'est la chronologie de l'auteur. Donc là, le schéma est assez simple, mais...
Et dans le livre d'Alain Bachung, tu relates quoi, sa vie?
Ouais, je relate sa vie depuis le tout départ, et puis surtout, je m'attarde beaucoup sur le début de sa carrière dans les années 60, sur son passage à vide dans les années 70, ouais. Sur sa période de producteur avec Dick Rivers, ouais. sur tous les passages obscurs qui sont souvent les plus intéressants chez les artistes. Ouais.
Okay.
Ouais, parce que pour moi, la période Gabi qu'il propulse, elle est hyper importante.
Surtout pour lui, parce que
oui, sinon il aurait arrêté. Il voulait faire de la réalisation, revenir à la réalisation, parce qu'il faut voir quand même qu'il y a 14 ans de galère avant Gabi.
I wanna have a good day.
Tiens bon, en se disant non, je continue, tu vois, année après année, non, je continue, je lâche pas le morceau, je continue.
Et c'est comme Noir Désir.
C'est incroyable.
C'est comme Noir.
Sauf que Noir Désir, ça a marché un petit peu plus vite.
Oui. Mais c'était à l'époque aussi. Surtout que Alain Bachon voulait plus ou moins être crooner, mais on le dirigeait vers ce côté.
Alors voilà, Alain Bachon au départ, si ça a mis du temps, c'est qu'il ne savait pas vraiment où il voulait aller. Si tu veux, il a fait des disques un peu yéyé, des disques un peu crooner, des disques un peu folk, etc. Parce qu'il ne savait pas au début. Il ne savait pas où était son style. Et comme c'est un chanteur qui a énormément de possibilités vocales, il pouvait tout chanter. C'est pour ça que quand il chante Les Romantiques,
T'as vu cette voix
quand il chante Stille Nacht aux Enfants du Rock, tu vois, c'est parfait quoi.
Et puis quand tu fais des reprises de chanteurs anglo-saxons,
quand tu reprends du country, tout ça,
la chanson a été le tube de l'été. Et il se disait, mais qui est ce groupe anglais? C'était pas un groupe anglais, c'était un groupe français. C'était quand même assez extraordinaire de voir comment il pouvait s'accaparer un style et le redonner comme si c'en était la version originale.
Est-ce que le plus incroyable chez lui, c'est que quelques mois avant le vrai commencement de sa carrière, c'est-à-dire avant son premier album Roman Photo, avec Boris Bergman et Daniel Tardieu, il fait un dernier essai en variété qui s'appelle David Bergen, et ça sort la même année, tu vois, la même année. Il n'a pas encore résolu un 45 tours qui s'appelle David Bergen sous pseudonyme. Il n'a pas encore résolu son problème d'identité. Il essaye encore de faire de la variété Mr. Hyde, voilà, et en même temps il sort Roman Photo qui est son premier vrai album.
Qui est
pour moi.
Il y a la chanson d'Hélène là-dessus.
Ouais, c'est la faute à Dylan, c'est bien.
C'est merveilleux. C'est bien ça, ouais. Faux, mais francophone, c'est vraiment ça révolutionne parce qu'il aurait pu prendre un style anglophone. Puis même sur scène, il reprenait des chansons anglaises sans problème. Et quelques jours avant sa mort, on m'a dit qu'il préparait une reprise des Doors.
C'est Yann Péchin qui t'a dit ça?
Il l'a appelé 3 jours avant sa mort, puis il lui a dit je vais mieux. C'était vraiment le high avant.
Ouais, le dernier.
C'est ça, exactement. Il dit garde, je suis sorti de l'hôpital et on va reprendre les Doors DN. Et puis là, il dit réécoute-le, OK? Puis lorsqu'on va se voir, puis qu'on va se pratiquer, je veux que tu m'amènes des nouvelles harmonies, quelque chose de plus extravagant. Puis, il n'y a pas de problème. Puis. Yann s'était déjà préparé à l'écouter. Il a reçu un appel, il est dans son lit, il est sur son lit mort, il reste plus grand temps à vivre, veux-tu venir voir, le voir avant.
C'est lui qui l'appelait ou c'était.
C'est sa femme.
C'est Chloé qui l'avait appelé.
Et viens-t'en vite, il veut te voir, puis il s'en va. Voilà, c'est ça. Mais il préparait une chanson des Doors. C'est quand même assez.
Zienne, en plus Zienne, pas n'importe laquelle.
Ah oui, c'est ça. Mais il avait eu pendant 6 mois un retour, c'est-à-dire que le cancer s'était arrêté et il a eu un petit problème au poumon. Et ce qui l'a tué, c'est pas vraiment ce cancer-là, c'est les petites maladies suite à ça. Il avait plus de système immunitaire, donc, mais il était prêt à faire une autre. Il avait signé pour 1 an encore en tournée.
Le concert,
partout, là. En Chine, au Canada et c'était, vrai, c'était ce qui l'a sauvé, c'est la musique. Ouais. Parce qu'il serait mort hein, sans chanson, sans... Et c'était vraiment pour les gens qui aujourd'hui sont souffrants, c'est quand même une forte figure.
Ouais, de se battre, de se battre jusqu'au bout.
Oui. Regarde, même s'il est mort, il a combattu jusqu'à la fin.
Et ce qui est incroyable, c'est que sa voix est toujours là. Ouais. Quand tu vois comment il chantait River Deep Mountain High,
oui.
C'est un morceau qui est compliqué à chanter. Il faut la puissance.
J'ai ni vu Ataratata qui est. Hein, tu l'as vu aussi.
Elle était belle la version Ataratata. Ouais, elle était belle. Hein.
Ah, oui, puis rythmé. Après la chanson, oui, il était essoufflé, mais ça sortait comme. C'était un ange. Un ange de la chanson.
Ouais.
Et Jim Burton, pourquoi Jim Burton?
Alors, Jim Burton.
Il nous reste Jim Burton. On l'a gardé pour les desserts. Hein.
Bah, disons que Jim Burton, voilà.
Quel beau dessert.
Déjà, c'est une très belle femme. Et puis, finalement, je me suis aperçu.
Tu me dis très belle femme, tu te réfères à quelle année de Jane Birkin?
Bah écoute, c'est toujours une très belle femme.
Oui, mais la figure emblématique, pourquoi de Jane Birkin?
Pour moi, c'est la période Oui, je t'aime moi non plus, vers 75.
Oui.
Quand elle fait le film, hein, je t'aime moi non plus.
Oui.
75, pour moi, c'est Levis 501 délavé, et puis débardeur blanc, coton.
Oui.
Et là, elle est sublime.
Oui.
C'est. Voilà, on est d'accord.
Mais je souris parce que je la vois très bien. C'est la figure emblématique, c'est le symbole sexuel.
Voilà, donc. Et puis aussi les petites mini-jupes vers 68-69, quand elle commence à sortir avec Gainsbourg, il y a cette période-là aussi.
Oui,
mais de toute façon, avec le petit panier en osier,
et le chien qui tue vite près, les enfants. Et donc, pourquoi Jane Birkin?
Alors, Jane Birkin, parce que je me posais plein de questions sur elle et je trouvais pas les réponses. C'est pareil, je me disais, Jane Birkin, est-ce que c'est une actrice, est-ce que c'est une chanteuse, qu'est-ce qui est important pour elle, etc. Parce que c'est pareil, il y a quelques disques de Jane Birkin que j'ai toujours écouté, qui ont toujours été parmi mes disques de chevet, comme Ex-Fan des 60s, tu vois, Didouda, les choses comme ça.
Raccrocher, c'est une horreur, aimes-tu ?
Ouais, raccrocher, c'est une horreur, ouais. Et puis c'est un personnage avec lequel j'ai grandi à travers les émissions de télévision, où en fait, dans les émissions de variété que tu regardes, que je regardais quand j'étais petit, il y avait toujours deux ou trois artistes qui me plaisaient. Il y avait toujours les Dalida, les Michel Sardou, les trucs chiants. Et il y avait toujours un ou deux petits grains de folie. C'était qui en général? C'était Gainsbourg et Birkin, ou Dutronc quand il venait, ou François Zardy, ou des gens comme ça, qui mettaient un peu de piquant, où là tu disais, ouais, ça va, il n'y a pas que de la merde en France, ça va. Et donc, Jane Birkin, elle faisait partie de cette bande, mais en même temps, elle était connue, mais elle n'est pas du tout connue en détail. On ne connaît pas son parcours, on ne sait pas par où elle est passée.
Encore
on ne se rend pas compte qu'elle a fait 80 films.
Oui, encore aujourd'hui.
Même aujourd'hui, ouais, parce qu'on connaît l'actualité de Jane Birkin, mais on ne se rend pas compte qu'elle a... Elle a fait 80 films et que parmi ces 80 films, il y a la plupart c'est de
la comédie.
Non, justement, c'est plus des films d'art et d'essai, c'est plus des films d'auteur. Elle a même fait un film d'épouvante, tu vois. Elle a fait en Angleterre, produit par la Hammer, tout ça, tu vois. Il y a des tas de trucs qui sont intéressants dans son parcours. Et c'est pareil, c'est une bête de travail. Elle n'arrête jamais.
Encore aujourd'hui.
Bah aujourd'hui, elle ralentit un petit peu le rythme. Tu vois, tu n'as pas le même rythme de travail à tous les âges de ta vie, donc c'est normal qu'elle lève un petit peu le pied. Mais dans sa période la plus active, c'est assez incroyable.
Effectivement. Et toi, ce qui t'a attiré, c'est plutôt ce qui était caché, ce que les gens connaissaient pas.
Ouais, c'est ça, puis c'est la relation aussi. C'est pareil, on parlait de la relation Dutronc-Hardy, et là, la relation Gainsbourg. Birkin, c'est aussi quelque chose de particulier.
Et c'est... pourquoi plus Birkin que Gainsbourg? Parce que tu aurais pu écrire un livre sur Gainsbourg.
Non, parce que Gainsbourg, la meilleure biographie qui a été écrite sur... Enfin, il y a déjà... il y a Verlan. Qu'est-ce que tu veux ajouter après Gilles Verlan?
C'est ce livre que tu veux parler, Verlan?
Oui, Gilles Verlan. Qu'est-ce que tu veux ajouter après Verlan? Il y a tout.
Il y a tout. Au contraire, toi, tu m'as dit que tu prenais...
un angle différent, ouais. Mais j'en ai pas trouvé pour Gainsbourg, j'avais pas d'angle différent.
Okay.
Mais...
C'est pour ça, Kilmer, pour toi, Chet Birken, c'était la façon de retrouver avec Gainsbourg.
Voilà, parce que, ouais, c'est ça, c'est un peu la façon pour moi de retrouver Gainsbourg, détourné. Et puis, Jane Birkin, elle est anglaise.
Encore aujourd'hui, hein, le chaise, là.
Justement, maintenant, en fait, je dis une bêtise parce qu'elle est ni anglaise ni française, elle est entre les deux. Et ça, c'est intéressant aussi, ce personnage. Elle est juste au milieu de la Manche.
Okay.
Elle est plus d'un côté ou de l'autre. Elle est... Alors, en Angleterre, elle est française et en France, elle est anglaise.
Véritablement, elle est anglaise.
Ouais, fondamentalement,
okay,
ouais.
Okay, ouais.
Mais elle a un truc très français chez elle aussi.
J'espère, avec le nombre d'années. Elle va chercher sa baguette comme tous les Français. C'est plus une anglaise. Elle est arrivée aux années 60. Elle a fait le slogan.
Ouais, et puis elle commence quand même avec Blow Up de Michael Antonioni, etc. Tu vois, il y a des.
Un petit rôle de rien.
Un petit rôle de rien, mais important quand même.
Incroyable. Ouais.
Visage d'enfant, c'est comme un fruit qui se fend dans la jungle, pire encore, et que rien n'interdira. Vivant dans son trou comme un rat, mais que rien n'interdira. Car j'ai vu son visage dans le delta et la mangrove et la pourriture des villes. Dans le delta et la mangrove et la pourriture. Nouveau Tchernobyl. Bave et de bile, mais à nos portes qui s'oppressent, le chloroforme et la compresse, dans la jungle pire encore, mais que rien n'empêchera, vivant dans son trou comme un rat. Vivant comme un enfant soldat. Car j'ai vu son visage dans le delta et la mangrove et la pourriture des villes. Dans le delta et la mangrove et la pourriture. Kilomètre 20, ils étaient bien 20, cheveux rouges comme de l'étoupe, avec la machette de coucou. Je l'ai posé près de la route, c'est cette eau sale qui l'a bu. Cadavre de chien de zébu, c'est cette eau sale qu'il a bu. Car j'ai vu son visage dans le delta et la mangrove et la pourriture des villes. Dans le delta et la mangrove et la pourriture. Chaleur atroce, le ciel qui se teinte en gris, enrôlé de force, Lagos, Conakry. Quelques coups de crosse, ses lèvres noires qui me sourient. Un dur comme de l'écorce, de Lagos, Conakry. Jungle pire encore, car j'ai vu son visage.
Avec des petits auteurs, sans budget, des petits cinéastes. Et alors, ce qui est intéressant,
elle a même réalisé un film.
Elle a réalisé un film aussi, voilà. Alors, ce qui est intéressant,
non, c'est The Box.
Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant chez Jane Birkin, c'est que c'est l'inverse de Françoise Hardy. C'est-à-dire que Jane Birkin, c'est au départ une personne qui est juste interprète. Elle est juste interprète. Je pense qu'elle a beaucoup d'humilité aussi en elle. Et
Gainsbourg, hein, tu dois te sentir écrasé.
Voilà, mais même en tant que comédienne, elle estime qu'elle a un registre ou deux registres, qu'elle n'est pas une très bonne comédienne, qu'elle prend pas toute la place sur l'écran, qu'elle se fait vite bouffer si autour d'elle elle a des comédiens plus confirmés, plus histrions. Et petit à petit, elle va grandir, elle va s'affirmer. Et elle va devenir auteur. Elle va, sur son dernier album, elle a pour la première fois osé écrire des textes. Ce qu'elle avait fait qu'une fois, elle avait fait un texte anglais pour Gainsbourg. Et par humilité, elle l'avait laissé signer à Serge. Aussi, ce côté que j'aime bien chez elle, c'est de ne pas se mettre en avant, de faire les choses, de travailler. Et de pas. Et puis d'avoir une humilité qui est quand même la marque de beaucoup de grands artistes, je trouve. Et elle, ce qui m'a intéressé, c'est sa façon de grandir doucement, de mûrir et de s'affirmer petit à petit au fil du temps.
Est-ce que tu l'as rencontré?
Je l'ai jamais rencontré.
Ok. Est-ce que tu l'as appelé pour lui?
Ouais, j'ai essayé de la contacter pour la faire participer au livre, pour l'interviewer, en passant par son manager. Et puis je me suis heurté à un refus.
Sans lui avoir parlé directement, c'est lui qui t'a
bloqué. Non, c'est lui, voilà, une fin de nous recevoir. Donc j'ai travaillé tout seul de mon côté, quoi.
Okay.
Voilà.
Ok. Et après l'avoir édité, as-tu eu des échos de Chelsea?
Non, je lui ai envoyé. Mais après, j'ai lu une interview d'elle où elle disait qu'elle ne répondait jamais quand on lui envoyait des livres sur elle. Elle ne répond jamais aux auteurs, donc j'ai pas été surpris de ne pas avoir de réponse.
Est-ce qu'on lui écrit beaucoup de livres? Est-ce qu'on lui consacre?
Ça arrive quelques fois. Il y en a. Mais plus des livres de photos. Les deux derniers qui étaient sortis, c'était des livres de photos.
Ok. Mais les romans, les biographies que tu as écrit pour Hardy, tu as eu des échos, pas vraiment.
Hardy non plus, ouais.
Noir Désir.
Et Noir Désir, oui.
Ok. Parce que tu connais les gens qui sont autour de Noir Désir.
Non, je connais juste un photographe qui est un bon copain à eux, et puis un auteur de polar qui est un bon copain aussi.
Qui t'en a parlé?
Mais disons que c'est la manageuse. Non, c'est la manageuse.
Ok.
C'est Jeannette. Que le groupe avait le bouquin a circulé, je leur ai envoyé, il a circulé, ils l'ont tous lu et ils se sont reconnus dans le livre et ils ne se sont pas sentis trahis. Ils m'ont dit qu'il y avait une ou deux petites erreurs factuelles, des choses que je ne pouvais pas savoir, qui ne s'étaient pas passées comme ça.
Okay.
Notamment des choses.
Modifié?
Je vais modifier pour la réédition parce qu'il va sortir chez J'ai lu en poche.
Okay. Ah oui, ok. Ouais.
Alors, je sais pas, parce que j'ai lu, ils attendent la sortie de l'album pour le faire paraître.
L'album de?
De Noir Désir. Alors, l'album, il sortira quand? Personne ne le sait.
Il faut attendre l'album pour que j'ai lu. Est-ce que tous tes livres seront disponibles chez J'ai lu? Parce que J'ai lu, c'est accessible actuellement.
Ouais, j'ai lu. Pour l'instant, ils ont acheté que Noir Désir.
Ok, c'est déjà beaucoup.
C'est déjà bien.
Ah oui. Et éventuellement, tu prépares des nouvelles créations, des nouvelles.
Alors, j'espère faire un livre sur Jacquenot.
Okay.
J'espère, okay. Avec un ancien journaliste de Rock and Folk qui s'appelle Jean-Éric Perrin.
Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui?
Qui écrit comme moi, il est journaliste comme moi.
Pigiste. Est-ce que tu t'estimes comme journaliste pigiste ou...
Alors, enfin, techniquement, je suis journaliste aussi parce que, en fait, je bosse beaucoup pour France 3 pour une série de documentaires. Et sur mon bulletin de salaire, c'est marqué journaliste. Alors, je suis quelque part journaliste.
Mais France 3, qu'est-ce que tu fais comme boulot?
Alors, je fais une série de documentaires quotidiennes. Qui s'appelle
quotidienne
qui s'appelle
travail.
Ouais, on est trois auteurs. Okay. Mais c'est quand même beaucoup de travail.
Mais un jour c'est toi, un autre jour
ouais,
c'est
voilà.
Alors toi tu viens aux trois semaines.
Comment?
Et toi t'es aux trois jours ou quoi?
Non, mais c'est-à-dire que en fait nous on a une somme de travail à faire.
Okay.
après on rend ce travail et après il est monté, etc. Et puis l'ordre de diffusion après c'est...
Et ça parle de quoi?
Alors c'est sur... c'est avec les archives de l'INA, c'est des biographies de en 26 minutes de comédiens, ou des fois en 50 minutes aussi, des fois c'est 2 fois 26.
Okay. Quand c'est un comédien chevronné, voilà. Comme Léo Ferré, tu peux...
Comédien, musicien.
Ok, juste comédien, musicien.
Réalisateur. Okay. Quelquefois politicien, écrivain, enfin de personnalités qui ont marqué la mémoire collective. Et on retrace leur parcours avec les archives de l'INA.
Ok.
Et c'est Gilles Verland qui fait la voix off.
Ah, mais ça pourrait être présenté sur Arte TV.
Non, c'est France 3 là qui présente. C'est aussi le service public.
Non, parce que ça serait plus accessible pour nous les Québécois.
Ah ouais.
et sinon, ben non, mais parce que ça fait un travail de Arte TV, de Arte. Tu trouves pas que ça fait un cachet Arte?
Bah, c'est traité quand même, façon France 3, c'est traité grand public quand même.
Ça?
Oui, on vulgarise, pardon. Bah, déjà, on prend vraiment des superstars, tu vois. On prend Truffaut, Lino Ventura. On prend,
et toi, t'as travaillé sur qui?
Bah, là, récemment, j'ai travaillé sur Claude François,
okay.
Sur Truffaut.
Mais quand tu les visites, est-ce que tu te dis il faudrait que je m'y attarde plus, et c'est là que commence pour toi ton engouement pour un artiste? Je sais pas, tu croyais que Lino Ventura n'était pas ce qu'il était?
Ah si, moi j'ai toujours adoré Ventura.
Okay,
si.
Mais est-ce que tu parles des sujets qui te...
Mais je découvre des choses, ouais, je découvre des artistes.
Non mais en même temps, est-ce qu'on t'oblige de prendre un artiste? Exemple, si on te dit prends François, Annie Cordy. Ok, Annie Cordy, tu vois, mais Annie Cordy,
Alors, si
j'adore en passant Annie Cordy.
Voilà, mais alors en fait, Annie Cordy, je suis sûr que je trouve des choses passionnantes sur elle.
Oui, mais à la base,
ça me parle pas. Voilà, à la base, non, ça me parle pas. Okay. Mais je suis sûr qu'en creusant, je trouve des choses super.
Alors, tu choisis. On t'impose des gens. Tu choisis pas des gens.
Si, on choisit parce qu'on se met d'accord avec les trois auteurs si on a des affinités pour les artistes.
Ok.
Et on arrive toujours à se mettre d'accord. Et puis après, il y a toujours quelques. Je suis pas un fan de Claude François, t'imagines bien.
Okay.
Mais après, ce qui m'a intéressé chez lui, j'ai pris l'angle le businessman. Tu vois, la façon dont il a monté un empire avec maison de disques, maison d'édition, agence de mannequins. Non, c'était Flèche.
Ah, Flèche, ok.
Comment il a généré la carrière d'Alain Chamfort, tout ça. Le côté
Chamfort,
Alain Chamfort, c'est lui qui l'a fait signer pour la première fois, qui l'a propulsé.
Ah.
Après, Alain Chamfort est parti parce qu'il voulait plus de liberté artistique.
Il est récemment par sa maison de disque il y a 6-7 ans.
Oui.
Et il est parti faire un spectacle ici à Paris, au Jardin du Luxembourg, c'est ça?
On l'a filmé. C'était en film, ça, oui.
Et ça, on l'a filmé, c'est exceptionnel.
C'est bien, ça.
C'est merveilleux.
Avec Bertrand Burgala, tout ça.
Et ça fait penser, oui, ben, plein d'artistes invités, oui. Et ça fait penser à Claude Nougaro. On l'a viré de Barclay, il revient.
Higelin aussi, tous les grands artistes se sont fait virer ces dernières années.
Oui, mais ils reviennent en force, Nougaro avec Nougayor.
Oui.
Bang, 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 attention. Ici, Nougayor, il voyait descendre des dollars. C'est totalement délirant. Et on se demande pourquoi ces maisons-là remercient des artistes qui, aujourd'hui, roulent comme... roulaient peut-être un peu moins, mais juste le fait de fermer la porte,
Parfois, il y a des moments où les maisons disques sont aux mains de gens stupides,
oui.
Qui voient juste à très court terme, mais à très 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 court terme, c'est-à-dire que c'est la mode des boys bands, on signe que des boys bands, et Nougaro, on voit pas assez, on vire
Star
Nougaro. Voilà, c'est vision à très court terme. C'est aussi parce que les maisons de disques sont de plus en plus des multinationales, et que les bilans, les décisions sont pas prises dans le pays localement. La décision, elle est prise à New York, okay. Elle est prise à New York, on fait un bilan comptable, avec des codes barres, vous faites tel artiste, l'artiste X, il a généré combien, il a coûté combien. Et si la balance est déficitaire, on le vire. Alors l'artiste, il peut s'appeler Higelin, il peut s'appeler Nougaro, il est viré s'il est déficitaire.
C'est incroyable.
Voilà. Et c'est parce que c'est de la gestion informatisée des choses, c'est pas de la gestion artistique ni humaine.
Mais pourquoi, exemple, IMI France, dis pas, mais écoutez, c'est Jacques Higelin, on peut pas virer Jacques Higelin. C'est quand même la figure emblématique de la chanson francophone.
C'est parce que les gens qui ont signé Jacques Higelin, les gens qui ont aimé Jacques Higelin, ils sont plus chez EMI depuis longtemps.
Okay.
Ils ont été virés aussi. Alors soit ils sont partis à la retraite, soit ils ont été virés. Mais les gens à la tête d'EMI aujourd'hui, c'est des comptables. C'est tout.
Alors c'est triste de voir où l'industrie, encore là, la FNAC. on peut plus acheter des CD à la FNAC à Place d'Abasté, c'est incroyable.
Ouais, elle a fermé d'ailleurs, ça y est, hein, je crois.
Ah, je sais pas.
Je crois qu'elle est fermée maintenant.
Mais hey, une maison, un disquaire qui ne vend pas de disques, c'est quand même assez ahurissant. Et là, ce que les gens vont aller chercher, c'est des chansons sur Internet et on dit, ah, il y a du plagiat, il y a des copies pirates. Ouais, mais à un moment donné, si on veut avoir le contact avec l'œuvre, si on veut avoir le CD, les paroles, à quel endroit l'acheter sur Internet, c'est quand même
En plus de ça, c'est une arnaque manifeste, le téléchargement légal. Parce que ce que tu achètes, c'est ni plus ni moins du MP3, c'est-à-dire un fichier.
Tu veux dire le CD ?
Non, le CD, c'est bien.
Oui, okay.
Le CD, c'est du fichier web.
Oui,
la qualité du CD est bonne.
Oui, c'est un web.
Mais, voilà, mais un fichier MP3 que tu achètes 99 centimes d'euros en France, c'est de l'arnaque.
Ouais.
C'est de l'arnaque. C'est un fichier compressé. Le son est pourri, il faut
c'est
le
vrai.
Dire.
C'est
en plus de ça, c'est pas compatible avec tous les formats de lecture. C'est-à-dire que tu vas acheter une chanson que tu pourras lire que sur certains lecteurs. Et c'est du vol. C'est du vol manifeste des médias.
Mais pourquoi ça continue ?
Mais écoute, bonne question. Bonne question.
Et surtout que les jeunes veulent avoir deux titres et non pas un album complet.
Ouais.
Et on oublie toujours que l'homme à tête de chou, c'est pas une chanson, c'est l'histoire.
Bien sûr.
Pas Initial Bébé, mais il y a l'homme à tête de chou, il y a l'autre.
Il y a Melody Nelson.
Melody Nelson, Melody Nelson.
Rocker on the Bunker, c'est un concept album aussi.
Melody Nelson, incroyable. Et oui, c'est
Rocker on the Bunker aussi de Gainsbourg, c'est un concept album.
Oui, oui. Alors donc, là, on fait plus vraiment des albums sur le concept et sur la chanson. Donc, on veut faire des... Alors la chanson peut-être...
Ça va forcément modifier la façon de créer des musiciens, c'est-à-dire qu'ils vont plus... Aujourd'hui, je pense que de moins en moins, les musiciens vont penser album, ils vont moins penser une suite de 12 chansons qu'on écoute dans un certain ordre, de la première à la dernière, mais ils vont faire des singles, ils vont faire voilà, des singles à la chaîne.
Ou les artistes aussi travaillent plus sur la scène, ils se disent on va aller chercher nos sous sur la scène et non pas par les billets que l'on va vendre, nos tournées. Donc,
la scène et les t-shirts, ouais, c'est sûr.
Un peu comme Pearl Jam. Pearl Jam, aux États-Unis, faisait un album... faisait un concert et tu pouvais acheter l'album du spectacle dans leur...
Kiss fait ça aussi.
Ah oui, c'est meilleur.
J'ai vu ça à Paris. Kiss.
Okay, mais le premier, c'est Pearl Jam. Hein.
Mais en fait, maintenant, je pense qu'ils vont tous s'y mettre. C'est-à-dire que tu fais partie du fan club.
Pourquoi pas.
Et pourquoi pas. Et tu commandes avant le concert ton album.
Ouais.
Et après, tu fais la queue en sortant et tu récupères ton disque du concert que tu viens de voir.
C'est
l'idée est folle. L'idée est bien, je trouve.
Exemple, ce soir, tu fais les Stooges à l'Olympia. OK. Alors, ce serait bien de sortir.
Ce soir, les Stooges à l'Olympia.
Et ça serait bien de sortir avec les Stooges, ben pas avec Iggy Pop, mais avec le disque, et tu dis, j'étais là. Hein? Alors donc, ça recrée l'industrie, ça remodèle peut-être une autre façon de voir.
Et puis je pense que là, dans ce cas-là, il y a une plus grande part qui revient à l'artiste en plus. Je pense que voilà.
Ben pourquoi pas? Puis il y a moins de manigances aussi au niveau du mixage. C'est-à-dire que si tu entends un cilement, c'est un cilement volontaire, ou peut-être involontaire, mais qui est là sur l'album, et tu étais là, tu l'as entendu. Donc peut-être que tu t'appropries beaucoup plus le disque et des gens apprécieraient davantage ce genre de relation-là avec l'artiste. Hein?
Moi, je pense que la seule chose positive qui soit arrivée dans les dernières années, c'est que les artistes ont un petit peu récupéré leurs droits. Ils se sont plus montés en indépendants, ils ont leur label. Et du coup, même s'ils vendent moins de disques, ils touchent plus de droits sur chaque disque vendu. Donc ça leur permet peut-être d'équilibrer un petit peu les choses.
Un chanteur qui est quand même assez... Sa carrière est bizarre, c'est Jean-Louis Murat, c'est-à-dire que c'est un type qui vit plus ou moins de son art, qui est très pauvre, hein, écoute, on l'entend à la radio, mais difficilement de sa musique.
Ouais, ça je sais pas, il y a eu des périodes où il était, il y a des disques qui ont marché dans les années 90,
ouais, mais
il y a des moments, je pense que ça a baissé, mais dans toutes les carrières d'artistes, il y a des hauts et des bas, et...
Mais c'est pour ce qu'il écrit, facilement ça pourrait être une méga vedette, mais je sais pas ça.
Il a eu des débuts, c'est marrant, ouais, il a eu des débuts très difficiles. Il
a
mis très longtemps à percer. Je crois que son premier album c'est 84.
Ouais.
Ça a marché.
Mais de l'oreille, ça a été un album. album.
Ça c'est quelle année ça, c'est...
ça c'est 90.
Tu vois, ça a mis longtemps à marcher.
Ouais.
Et depuis c'est...
fini, là, sur la pochette, là, est-ce que tu dis
Je me rappelle plus de la pochette.
Non, non. Et donc, ce qu'on se dit, c'est qu'un artiste, mais il faut dire aussi que c'est un gars avec la grosse tête. Je l'ai vu en spectacle, là, puis parce que le son ne fonctionnait pas, il a arrêté son spectacle, il s'est... il a demandé aux gens de son de retravailler, puis je retournerai si le son est intéressant. Il s'est jamais représenté.
Putain, pour le public, c'est nul de faire ça.
C'est incroyable.
Ça manque de respect. Ça manque de respect. Ça manque de respect.
Incroyable.
Public. Dans quelle salle c'était ça?
Ça, c'était
au Québec.
Au Grand Théâtre à Québec.
C'est scandaleux de faire ça pour le public.
Ah oui, il y avait 400 personnes.
Un manque de respect.
C'était plein à craquer. Ouais. Okay, c'était formule concert. Et c'était plein à craquer. Et monsieur arrive sur scène, le son est pas à son goût. Arrête le spectacle. Lorsque le son sera intéressant, rappelez-moi, je serai en arrière de la scène. Et il ne s'est jamais représenté.
Mais ouais, mais pour qui il se prend pour faire
mais
ça?
C'est ça. Alors je crois que c'est ça. Ouais. C'est son côté peut-être un peu.
Peut-être un peu, oui.
Donc il a été victime de sa propre.
De son propre caractère.
Ego, ouais. Hein, de son ego. Et toi, éventuellement, tu travailles sur quel. Sur une nouvelle roman à vivre?
Alors en fait.
Ah oui, là tu m'avais dit que tu travaillais sur.
Je vais peut-être faire un livre sur Jacquenot.
Ouais.
Sinon, ouais, j'ai un projet de. Un projet de roman un peu en partant d'un fait réel.
Ce que tu nous as dit au début.
Non, autre chose.
Ah oui, ok. Alors ce que tu nous as dit au début, c'est pas encore un projet.
C'est au stade de projet.
Okay.
J'ai toujours pas mal de projets.
Okay.
Mais là, ce qui est vraiment signé que je suis en train d'écrire et qu'il faut que je rentre bientôt, c'est pour les éditions Larousse. C'est un dictionnaire des années 80. Alors ça, Larousse, vous trouvez, c'est distribué au Québec, j'imagine.
C'est quoi, c'est mondial, c'est comme roman.
Voilà, c'est mondial. Ah, donc ouais. Ça sera disponible.
Exemple des mots qui étaient symboliques dans les années 80.
Alors c'est pas tellement les mots, c'est moi je travaille plus sur les personnalités.
Comme.
Alors comme les grands cinéastes des années 80, les œuvres des années 80, les lieux des années 80, les bars, les clubs où on sortait dans les années 80. Forcément à Paris, ouais. C'est,
okay.
Pour les clubs, c'est forcément à Paris. Sinon mondialement, pour la culture, c'est plus mondial. C'est,
okay.
Donc ça
Cassavetes, peut-être dans les années 70-80.
On peut pas vraiment dire que Cassavetes, c'est un artiste des années 80. C'est un artiste. Ça s'étend sur plusieurs décennies.
Ouais. Ok, qui ont été symboliques en 80.
Bah, symbolique dans les années 80, il y a Besson, il y a Benex,
oui.
Tu vois, dans les réalisateurs français, c'est
ouais. Ce moment où, ensuite,
ouais, voilà, de... ça c'est des moments où ces cinéastes explosent. De façon, t'as un film comme
Les
Lieux
de la Paix.
Si, bah, c'est parce que là c'est bien parti.
Mais combien de pages?
Oh, bah combien de pages, je sais pas. Alors si tu veux en signes, ça va faire environ 1 million de signes. Donc ça sera, je sais pas, du 600-700 pages quoi.
Avec photo.
Avec des cahiers photos, ouais.
Donc,
ça coûte cher les photos dans l'édition, donc il y aura.
Okay, c'est pour ça que.
Oui, il y aura deux cahiers photos à l'intérieur, mais on pourra pas tout illustrer malheureusement, ça serait okay. Trop cher.
Et les films aussi symboliques des années 80.
Ouais, bah là je te dis, il y a 37-2, il y a La Nuit de la Pleine Lune, il y a aussi un film qui n'est pas très bien vu des critiques, c'est Les Frères Pétard.
Oui, ben oui, avec.
Et qui est un film très important, il y a Alain Pacadis dedans, tu vois. Et
c'est qui les deux? C'est Villeray et l'autre c'est.
C'est Villeray et Lanvin. Et Lanvin,
oui, Gérard Lanvin.
Et c'est un film, pour moi, c'est les Blues Brothers français, ça.
Oui.
Tu vois, c'est l'humour.
C'est vrai. Ou
c'est Cheech and Chong, tu vois, c'est l'humour du joint transposé à la réalité française, tu vois. Au camembert et au béret.
Hey, il faut que je t'explique, il y avait l'émission de Sabatier, c'était pas à Vue de Recherche, mais c'est similaire à ça, je me souviens plus, et Coluche était invité. Est-ce que tu fais l'émission avec Sabatier?
Moi ouais, j'ai dû voir des extraits,
de
ouais. J'ai vu des extraits, mais...
Ok, bon, et à un moment donné, un gars de la salle trouve abominable le fait qu'à Paris, lorsqu'on décroche le téléphone pour appeler, ça commence à la minute, ok? Et le gars est bègue. Et il essayait d'expliquer à Coluche que c'était épouvantable, est-ce qu'il pouvait faire quelque chose pour les bègues? Et écoute, ce gars-là est entendu parce qu'il est dans le film Les Frères Pétards.
Ah oui?
Oui, à un moment donné, au tout début du film, je sais pas, ils sont dans la rue et on demande la route à ce gars-là et le gars finit pas de... Et c'est le gars a été vu à l'émission de Coluche et de Sabatier et c'est là...
C'est là qu'ils l'ont pris?
Oui, ben oui,
ah ouais.
Tu savais pas, hein? Mais quand tu vas le revoir, tu vas te rendre compte qu'il y a un bec et c'est ce bec-là qui était au début et c'était complètement tombé. Ah oui, c'est ça, moi je l'ai vu ce film-là récemment, il y a peut-être un an et demi, et c'est là que j'ai associé les deux, parce que j'avais vu il y a quelques mois l'émission, et donc ah oui, c'est vrai. Et ouais, pour toi, c'est un film important?
Ouais, c'est un film important pour moi, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un film grand public qui a eu beaucoup de succès et qu'en même temps, qui fait avancer la société, qui fait avancer les choses. Tu vois, ça parle ouvertement de la culture jointe, tout ça, qui est connue des initiés, mais ça l'amène à la portée du grand public. Et c'est, pour moi, c'est un humour rock. C'est aussi une conception. C'est comme les films de Poiré.
Okay.
Tu vois, Jean-Marie Poiré, les cinéphiles l'aiment pas, mais pour moi, c'est des films rock.
Il est trop accessible, c'est un peu.
Voilà, mais pour moi, c'est des films rock. Quand tu vois mes meilleurs amis, ou c'est mes meilleurs copains, qui parlent de la génération des années 70,
ouais,
qui ont eu un groupe de rock avec justement une chanteuse québécoise qui a quitté le groupe et qui est devenue très célèbre.
Louis Portal.
Voilà. Ouais. Et ben, pour moi, c'est une façon rock d'aborder le cinéma, tu vois. Et il y a.
C'est pas un film qui a eu un succès, ça, en fait?
Ça, pas trop. Okay. Celui-là, il a pas trop marché.
Mais Les Frères Pétards et Les Bronzés, c'est. Les Bronzés ont.
Voilà. Alors, ça, c'est super important aussi. Le Splendide, ils amènent quelque chose dans l'humour, au cinéma.
C'est
voilà.
Pas les années 80, ça.
Si, le Splendide, ça explose dans les années 80.
Okay. Renault
aussi, ouais.
Marc Chalon, ça c'est
ouais, ouais, c'est Marc Chalon, c'est les années 80.
Tu peux
en parler? Ouais.
Ok. Mais qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu dis, là je parle de ça et je parlerai pas de ça, puis là, à un moment donné, c'était édité. J'ai oublié cet auteur.
Alors ça, la liste
sur le bois, t'en parleras pas.
C'est, tu te l'associes aux années 80, toi? Moi j'ai
70, pas.
Bah ouais, non, c'est Lindbergh, tout ouais. Ça, Lindbergh, c'est moi j'adore,
c'est
mais c'est
avant.
C'est
ouais, ouais, ouais. Réaction, ouais. Il y a d'avoir un Québécois là-dedans.
J'adore.
Okay. Mais il n'y aura pas de Québécois.
C'est, pourquoi c'est qui les Québécois pour toi importants des années? Parce qu'il y a plein de Belges, mais oui. C'est vrai que
bah là, les Québécois Belges, importants. Tu peux pas mettre Plastic Bertrand, c'est les années 70, Plastic Bertrand.
Ouais, par exemple, s'il y a des films importants au Québec.
Ah oui, des années 80, ben oui.
Ouais.
Ben oui, il y a des films de Jules Carle, il y a des...
Ouais, ça c'est, ouais, c'est vrai.
Ah oui. Écoute, on peut même voir Pierre Perrault, l'univers de Pierre Perrault. Il y a...
Ça faut que je le marque, ça, ouais.
Dans les chanteurs et chanteuses, écoute...
Est-ce que tu as un stylo?
Oui.
Merci.
Il y a des gens qui ont été des étoiles filantes, un peu comme...
Il y a le déclin de l'Empire américain, c'est 80, ça?
Ben là, toi, est-ce que tu parles de 80 à 89?
Ouais, c'est 80.
Ah oui, c'est le déclin de l'Empire américain, oui, c'est Denis Arcand.
Ça, c'est super important,
ça. Oui, c'est Denis Arcand qui s'est présenté à Cannes.
Tu disais qui d'autre aussi?
Ah ben là, j'ai dit plein de choses.
En réalisateur, t'avais dit deux autres noms?
Ah oui, tu y revois. Mais Pierre Perrault, c'est plutôt les années 70. Non, oublie ça. Après ça, ben il y a eu Gilles Carle. Est-ce que tu connais Gilles Carle?
Non.
Carole Laure.
D'accord.
Mais Carole Laure, tu connais?
Bah oui, bien sûr.
Ah, ouais, c'était la muse de Gilles Carle.
D'accord.
Et quand j'ai rencontré...
C'est vrai que Carole Laure, maintenant, elle vit en France. Alors, je l'associe un peu à une Française, mais elle vit en France. Hein.
Oui, ben c'est parce que sa fille habite en France. Elle fait de la danse... comment t'appelles ça? De la danse...
Contemporaine. Mode...
Contemporaine, oui, j'adore. Oui. Et je discutais avec comment il s'appelle le guitariste Péchin hier. Et il me disait qu'il a fait dans les années 90, il s'est promené avec l'or un peu partout, au Canada, au Québec et puis en France pendant 2 ans et demi en tournée. Donc Carole Laure, c'est quand même une figure emblématique des années 70-80.
Ouais, et il y a Lewis Ferré qui a joué à Paris il n'y a pas longtemps.
Exactement.
En février.
Oui, eh ben, je l'ai écouté sous les étoiles exactement et j'ai entendu piano voix. C'est un gars totalement underground. C'est un gars, j'ai pas connu personne. Tu sais, il y a un réseau underground, il devrait un jour là, avoir un livre sur l'underground. Tu sais, des gens comme...
Et pourtant, il est underground et en même temps il est mainstream parce que il a sorti plein d'albums sur des majors. Dans les années 70, tous ses albums étaient chez RCA.
Il a fait des... Tony Truant est pas connu.
Mais Tony Truant, il a fait...
Là, il a fait L'œil américain, qui est un album extraordinaire, mais qui joue nulle part.
Ouais.
C'est très bon, c'est du rock pesant. Je crois qu'on broute les gens underground. On devrait éventuellement associer un bouquin à ce côté-là, obscur, mais qui est quand même accessible et bon, mais que je crois que la société broute, ou que les industries broutent.
Et tu penses que c'est des gens qui pourraient devenir mainstream? Tu penses que Tony Truant, ça pourrait plaire à des gens qui écoutent de la musique mainstream?
Ben oui, pourquoi pas. Ben facilement.
Je pense qu'il faut un petit peu de culture rock quand même pour aimer...
Ben non, c'est très accessible. Hein? C'est beaucoup plus accessible que certains petits chanteurs académiciens. Bon oui, je crois que... Mais c'est parce qu'on n'a pas accès. Tu sais, quand tu n'as pas accès à quelque chose, comment tu veux t'y attarder?
Je sais pas si c'est le seul problème, parce que par exemple, dans le cas de Lewis Ferrey, il a été chez RCA, donc... Les gens avaient accès à lui chez RCA. Pourquoi? Parce que c'est trop subtil, peut-être comme...
Peut-être que ça rejoint pas.
Trop compliqué, trop complexe.
C'est pas accessible. T'sais, ça demande un arrêt sur image pour parler cinéma et aussi une recherche. Puis comme on est dans une société où on veut pas chercher, mais au contraire, on veut arriver à rapidement à quelque chose, un résultat, à une compréhension, ben, on n'est pas prêt. Écoute, comme je te disais au départ, on préfère un roman accessible qu'un roman de gens qui est un peu plus obscur parce que ça demande un effort. On est dans la société où on préfère aller manger chez McDonald's que d'aller encourager monsieur à côté. Hein. Je trouve ça incroyable d'être à Paris. J'habite près d'un McDonald's et tout le monde va au McDonald's.
T'es où à Paris? Dans quel quartier tu es là?
Là, je suis dans Abbesses. Ouais. Mais je n'appellerais pas ça Abbesses, moi j'appelle ça Amont parce que ça monte un petit peu. Ça monte toujours. Hein,
t'es dans quelle rue?
Abbesses.
Rue des Abbesses?
Oui.
Ah, d'accord. Super.
Ben, après ça, j'ai été sur la République. Parce que j'ai changé deux fois, j'ai dit on sait jamais, peut-être que je vais apprécier un, donc mieux vaut être trois jours à un endroit, quatre jours à un autre, comme ça tu peux. Parce que l'année dernière, j'ai été aux trois docks qui étaient dans le 9e arrondissement, c'était vraiment chier.
Dans quelle rue c'est, le 9e?
Ouais, je peux pas te le dire.
C'est vers Pigalle plus, non?
Non, mais là, moi, c'est actuellement. Abbesses, c'est très peuplé. Hein?
Ouais, c'est bien Abbesses.
Ah ouais, c'est vraiment accessible. Et,
c'est vivant, t'as encore des bars sympas. sorti mon premier livre en 2006. Enfin, ça a été long, oui et non, ça prend toujours du temps, c'est normal. Mais là, je commence seulement maintenant à avoir des sources de revenus un petit peu régulières grâce à la télévision. Et puis à faire, je pense que je vais aller aussi de plus en plus vers les ateliers d'écriture.
Pour enseigner.
Faire des ateliers d'écriture dans le cadre d'associations, tout ça, qui sont demandeuses, qui demandent à des auteurs.
Tu oublies l'exemple, un arrondissement demande quelqu'un.
Voilà, alors là, je vais peut-être commencer par faire ça en province, dans la région de Châteauroux.
Alors, il y a une association.
Ouais, mais c'est-à-dire que si je travaille avec eux, ça sera une dizaine de jours sur un an. Okay. Et à chaque fois, c'est un jour. Okay. Tu viens un jour dans une école et tu fais un atelier d'écriture.
C'est pour des enfants,
des étudiants. Et à la fin, les nouvelles sont publiées au Castor Astral, okay, qui est justement un éditeur franco-québécois.
Oh, je connais.
Ouais, qui est basé à Bordeaux et qui est né d'une association entre deux.
Québec-France.
Ouais, c'est Québec-France, ouais.
Mais les étudiants, quel âge?
Bah, j'ai pas commencé, mais a priori c'est du lycée, donc c'est 16 ans, 17 ans, par là.
Adolescent.
Ouais.
Et toi, tu vas les diriger ou au contraire, tu vas les laisser...
Bah écoute,
je sais pas,
je leur fournirai un thème de nouvelles et après je les guiderai un peu.
Mais bref, tu fais plein de choses.
Bah il faut, ouais. Il faut, parce que si tu fais juste des livres, c'est difficile de vivre, à moins de faire un best-seller. Donc il faut faire plein de choses.
Mais crois-tu en vivre jusqu'à la fin de tes jours? Au contraire, tu...
Ouais, c'est pas mal parti là, ouais.
Ah oui, t'es vraiment optimiste, tu dis, tu commences à faire ton créneau.
Ouais. Okay. Ouais, tu sais, j'ai publié sous mon nom depuis 2006 8 livres. J'ai publié une dizaine d'ouvrages en collectif, tu vois, en participant, en offrant une nouvelle de ci, de là. Le dernier en date, c'était un bouquin qui s'appelle London Calling. C'est un livre hommage à Clash, qui est sorti chez Buchet Chastel, qui a vachement bien marché. Qui a très très bien marché. Du coup, on fait les Ramones.
Et vous êtes plusieurs auteurs.
On est 19 auteurs.
À travailler sur un artiste.
Voilà, sur Clash. Et là, on a fait chacun une nouvelle à partir d'une chanson de l'album London Calling. Et l'année prochaine, on fait toujours chez Buchet Chastel les Ramones.
Combien de pages?
Et alors là,
ouais.
Moi j'ai fait. On est limité, on doit faire chacun une dizaine de pages.
Ok.
Et l'année prochaine.
Sur une chanson, la chanson de ta mère comme imaginaire.
Ouais, et moi j'ai fait Jimmy Jazz.
Ok.
Et là j'avais imaginé que. Jimmy Jazz c'est un personnage de chanson. Et j'ai imaginé que Jimmy Jazz existait.
Okay.
Et était l'éminence grise de Clash.
Ok.
Et qu'il y a plein de gens, j'ai pris plein de personnages réels, les roadies de Clash, ingénieur du son, manager, qui viennent parler de Jimmy Jazz et qui disent voilà, Jimmy Jazz c'était ça.
Zelling de Woody Allen?
J'ai pas vu Zelling, non.
Ok, Zelling c'est un faux personnage, un faux documentaire et on nous fait croire que cet individu-là a existé. Et il pouvait se métamorphoser. Exemple, il était avec des noirs en Afrique et de blanc, il changeait au noir. Mm. Donc il était avec des obèses, il grossissait. Mm. C'était tellement bon que tu y croyais.
Ben voilà, et ben c'est intéressant ce que tu me dis parce que moi, par exemple, dans la description que je fais, et il y a des gens.
80, là, c'est Zelling, c'est un
Zelling, ouais, aussi, ouais. Et donc pour moi, il y a des gens qui décrivent, bah ouais, Jimmy Jazz, j'ai bien connu, il était black.
Okay.
Puis t'as des gens qui en parlent, qui disent, ouais, c'était un petit blanc du nord de Londres, etc.
Ça.
Et puis il y a une fille qui dit, il était magnifique, il était beau, mais il y a un seul problème, il était homosexuel, c'est tellement dommage parce que j'étais amoureux de lui. Et tous les gens donnent une image différente. Il y a même Chas Chandler, le manager des Animals et manager de Jimi Hendrix, qui dit, ouais, en fait, l'idée de Jimi Hendrix, elle m'est venue après avoir vu Jimmy Jazz sur scène, tout ça. Et voilà, il y a plein de trucs, plein de témoignages qui sont tous divergents.
C'est comme un point de vue, tu vois un accident, t'es là.
Ouais,
t'es là,
voilà, et chacun a une version différente. Okay. Et finalement, il n'y a pas de vérité. Ouais.
Et puis, tu as pu amener ça en 10 pages.
Et puis, voilà, et il y a une unité quand même, bien sûr.
Mais c'est quand même assez. C'est une histoire totalement extravagante pour 10 pages.
Et alors, c'est intéressant parce que c'est de la fiction sous forme d'un reportage. Et ça, j'adore ce genre de.
Et même, ça pourrait faire un film, un court-métrage.
Ouais, je pense, ouais.
Est-ce que tu veux éventuellement t'en aller vers le cinéma ou...
Alors, oui. Parce que, en fait. J'ai déjà écrit deux longs métrages qui n'ont pas été tournés avec des réalisateurs, dont un qu'on retravaille encore.
Un long métrage?
Ouais, un long métrage qui s'appelle 1971. qui est l'histoire d'un groupe de rock qui entre dans une sorte de château en résidence pour faire son album, qui doit être l'album de la consécration avec un studio mobile, tout ça.
C'est un vieux gros.
Voilà, ça se passe en 1971 et c'est un groupe français imaginaire qui aurait pu changer la face des choses en France s'il avait été jusqu'au bout, et on raconte son histoire et le petit truc qui va déraper pendant les séances, le bassiste meurt.
De quoi ? D'une overdose ?
Overdose, évidemment.
Évidemment.
Et voilà. Et on s'aperçoit que ce bassiste n'était pas juste le bassiste, qu'il avait une importance cruciale dans le groupe. C'était le leader parce que en fait il écrivait les textes, mais le chanteur signait les textes parce qu'il y avait un rapport entre eux depuis l'enfance. Tu vois, l'un était sous la domination de l'autre, et à partir du moment où le bassiste meurt, bah, le chanteur est à poil. Et là, il va dire aux autres, bah, j'ai pas les textes.
Et c'est pas moi, là. C'est
voilà.
Donc,
imposture. Alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le groupe le vire ?
Okay.
Et dit, putain, mais tu nous as menti pendant 5 ans, casse-toi. Ou alors est-ce que le groupe, là, se soude et devant l'adversité, essaie de dépasser ça. Voilà, et ça raconte ça.
Et as-tu des fausses chansons du groupe ? As-tu composé des fausses chansons pour le groupe ?
Non, ça sera un professionnel qui fera ça. Il y aura...
Non, mais tu sais, créer un album.
Mais il y aura ça, okay. De façon 70s, ouais. Il y aura ça.
Ouais, mais je veux dire, est-ce que des... Parce que c'est une histoire c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent?
Bah écoute, pour l'instant, on n'est pas assez content du scénario qu'on a. On le retravaille encore avant de le présenter à des producteurs, avec le réalisateur, parce qu'on travaille à deux.
Ok, le réalisateur, tu peux pas le nommer?
Si, c'est un mec qui s'appelle Yannick Sayet, qui a déjà eu une victoire de la musique pour un clip de Jean-Jacques Goldman. De Jean-Jacques Goldman, il a fait 100 clips dans sa vie, c'est un grand réalisateur de clips. Je crois que c'est celui qui se passe en... À Prague, il y a
Quelle
plein de violons, tout ça. Je sais pas, c'est les années 90 ou début 2000.
Ok. Il en a fait plein, il a fait 100 vidéoclips dans sa carrière.
Ouais, il en a fait plein. Il fait tous les enfoirés, tous les clips des enfoirés, c'est lui qui les fait.
Et là, tu travailles avec lui pour le scénario,
ouais.
Pour enlever quelques trucs, mettre une certaine. Une action.
Voilà, si tu veux, au départ, c'est lui le synopsis, c'est son idée à lui.
Okay.
Qu'on l'a développé ensemble, j'ai amené plein d'éléments et puis il avait besoin d'un petit peu de mon regard d'ex-musicien sur la chose. Et ça fonctionne bien pour l'instant, il y a une bonne chimie entre nous.
Et donc, c'est long, hein.
Ah, c'est un long
mais
processus.
Il y a plein de choses, lui aussi, de son
côté.
Donc, quand vous rejoignez, c'est quand même assez rare.
Si, parce qu'on a des périodes où on se fixe un ou deux rendez-vous par semaine.
Ah, ok, c'est assez.
Ouais.
Alors, éventuellement, ça devrait se faire.
Ça, si messieurs les producteurs.
C'est ça, c'est dur l'argent. Hein.
Ouais, nous, on a encore du travail d'écriture, mais après, il y a un travail de rechercher l'argent, rechercher
mais
les fonds.
Aussi, ça pourrait être une coproduction.
Ah bah tout est bienvenu, bien sûr.
Tu prends un comédien québécois, il se peut avoir des sous du Québec, on ne sait pas. Hein?
Ouais, bah il y a ça aussi.
On a
des très
bons comédiens. Cossaire Bouton,
bien sûr.
Un joué dans Jésus de Nazareth de Arcan, hallucinant. Et Jésus de Nazareth, c'est un film des années 80. Fin des années 80. Un film incroyable, mon ami, avec une métaphore des.
Film de Scorsese?
Non, de Denis Arcan. Jésus de Montréal.
Non, j'ai pas vu. Jésus de Montréal, ah oui.
Oui, puis la fin, il se fait écraser. Parce qu'on relate l'histoire de Jésus sur le Mont-Royal à Montréal. Et le Jésus qui est joué par Buteau se fait crucifier comme dans l'histoire, la vérité de l'histoire selon certains. Mais la couette va tomber. Et il se retrouve à l'hôpital et il a les bras en croix et il va mourir, on lui enlève le cœur. C'est totalement symbolique, c'est merveilleux, un beau film. Tu devrais le regarder. Tu dois voir ça dans les cinémathèques ou même sur Internet. Mais c'est vraiment un film qui va être un film coup de poing.
D'accord.
Puis de Denis Arcan. Arcan, c'est bien. Il a fait Jésus de Montréal, il a fait Le déclin de l'Empire, mais je crois que, à mon avis, Jésus de Montréal est plus fort que Le déclin. Mm. Mais c'est un avant-goût parce que c'est très. Ce film bien léché. Le déclin de l'Empire, c'est travaillé, tu sens que c'est bien filmé, c'est du vrai Pasolini, c'est du Fellini, c'est du tout ça mélangé. On a des auteurs. Et puis donc, c'est ça, tu travailles sur ce film-là, tu travailles sur Atlas, tu travailles incessamment à donner des cours à des étudiants.
Ouais, ça sera en 2011 les cours, j'en ai pas... Et puis je fais de temps en temps des conférences sur le punk aussi, parce que j'ai fait un dictionnaire du punk.
Okay.
Seul? En général avec un film.
Et comment ça s'appelle? Dictionnaire du punk?
Ouais, dictionnaire raisonné du punk.
Raisonné du punk.
Ça, ça va, ça, il est épuisé, il va reparaître au Camion Blanc aussi.
Magic Star, qu'à l'origine.
Non, non, le premier éditeur, il a fait faillite, c'était Scali.
Okay.
Et il sortira chez Camion Blanc okay. en 2011.
Et, en fait, pour changer quelques trucs ou...
Plein de choses, c'est-à-dire qu'il va faire le double en volume. Parce que j'ai ajouté plein d'interviews que j'ai réalisées de Daniel Dark, de James Chance, de Colin Newman, de Wire, de Ty Luke, de La Souris Déglinguée, qui est un groupe punk français.
Oui, mais qui a modifié un peu son style là, récemment, depuis 2 ans ou 3.
Oui, il a fait un album solo. Il a fait un album solo qui est chouette, Ty Luke.
Ok, oui.
Qui s'appelle Jukebox.
Ok, ah, okay.
Qui est très très bien, où il reprend du Velvet Underground, il reprend du.
En anglais, là, c'est des reprises anglaises.
Ouais, et françaises, des vieilles chansons françaises aussi.
Ok.
Genre Le Temps des Cerises, tout ça, des chansons comme
mais
ça. Non, guitare-voix.
Ah.
Avec une petite boîte à rythme. Ou...
Et ça s'appelle.
Ça s'appelle Jukebox. Jukebox.
Ah,
c'est... Non, ça c'est Ty Luke.
Ok, Ty Luke qui de...
Ouais, c'est Ty Luke en solo.
Ok, ah ouais. Ah,
c'est
mais
super.
Je vais... Ah mais je vais regarder ça. Ouais, ouais.
Oh. Voilà, et j'ai fait aussi une introduction, parce que le dictionnaire c'était juste sous forme d'entrée de A à Z, point. Là j'ai fait une introduction d'une trentaine de pages, où j'explique un petit peu ce qu'est le punk, parce que je me suis aperçu que j'avais des lecteurs très jeunes, qui n'avaient pas connu ça, et je remets... Ouais, des gens très jeunes qui passaient leur bac, ouais, qui m'envoyaient des mails en disant je suis en train de lire votre livre, j'apprends beaucoup de choses, merci. Et donc j'ai fait l'introduction pour que les teenagers sachent un peu comment c'est parti, parce que tout le monde ne connaît pas les garage bands des années 60, tout le monde ne connaît pas les groupes de Detroit, MC5, tout ça, donc j'ai fait une petite chronologie avant de rentrer dans la partie dictionnaire.
Malheureusement, le livre devrait avoir un CD, ça serait peut-être...
Ouais, ça serait bien, mais maintenant tu peux tout écouter en streaming sur plein de sites, ça va.
Et éventuellement, est-ce que tu dois faire quelque chose qui va ouvrir des voies, qui va t'ouvrir des voies ou,
Bah, tu sais, c'est un petit peu le cas tous les jours. Hein, c'est un projet en amène un autre, un livre en amène un autre. C'est... Oui, ça... il y a toujours des voies nouvelles qui s'ouvrent.
Ok, mais tu es très positif pour ce qui va arriver là, dans les prochains mois.
Ouais, curieusement, c'est pas très à la mode, mais je suis très positif, ouais.
Mais c'est vrai, c'est pas la mode, le positivisme.
C'est pas la mode,
Non, mais que ce soit ici ou partout, hein, au Québec, on dirait qu'on est... Là, j'ai 10 questions et je cherche ces questions-là avant de terminer, que j'ai posé à tous les artistes. Et normalement, je préparais ma feuille, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas rangée avant de te rencontrer, mais c'est pas grave, j'en ai...
Attends, j'en reviens.
Oui, oui. Si tu étais une saison.
Automne.
Oh, pourquoi c'est plus frais ?
Ouais, j'aime bien l'automne parce que c'est une saison de redémarrage. En général, les gens rentrent de vacances, ils ont plein de projets et tout recommence. Les lycéens retournent à l'école.
Okay.
C'est une nouvelle année qui commence où tu peux te dire que tu vas être meilleur que l'année précédente.
Okay.
Ou que tu vas réussir ce que tu as raté la saison précédente.
Ah, c'est un point où on peut s'améliorer.
Ouais, où tu penses que tu crois que tu peux t'améliorer.
Si tu étais un membre corporel.
Un membre ?
Oui. Corporel.
La main.
La main, bah oui, de l'écrivain. La main,
la main de l'écrivain.
Si tu étais un moment de la journée.
Fin d'après-midi.
Vers les.
Oh, vers les 19h.
Ok.
Ouais.
Et si tu étais un autre individu.
Ah, j'aurais beaucoup apprécié être Lou Reed.
Lou Reed.
Ouais.
Okay. Pourquoi?
Bah parce que pour moi c'est un sommet dans le rock. C'est
sa carrière.
Ouais, il y a pas grand chose que j'aime pas dans sa carrière. Ouais, j'aime tout.
Solo ou avec les Velvet.
Les deux, ouais.
Okay.
Mais sa carrière solo est extraordinaire et c'est un mec qui arrive à tout mélanger, le côté sauvage du rock, l'intellectualisme, l'électricité, la sauvagerie, c'est fabuleux, c'est fabuleux.
Alors, merci Lou Reed.
Merci Lou Reed.
Merci mon ami.
Merci à toi, merci à vous.
As-tu déjà visité le Québec?
Non, malheureusement, pas encore.
Ça sera un projet avec TV, peut-être.
Ben, j'espère, dès que je suis invité, je viens, je fais mes valises et j'arrive.
Mais nous avons un salon du livre assez extraordinaire à Montréal et à Québec, donc peut-être qu'éventuellement...
Ben, j'espère, ça se fera un jour ou l'autre. Ouais. Oui, mais, c'est à moi de devenir assez célèbre pour être invité.
Non, parce qu'il faut se river vers la BD, parce que la BD est toujours plus ouverte, on invite plus de gens de la BD, malheureusement.
Ah, ben, j'ai un scénario de BD, alors peut-être...
Ah, ben, on se verra à
peut-être,
Québec.
Peut-être.
Ah, ben, salut Pierre, enchanté.
Enchanté.
Heureux de t'avoir rencontré à Paris.
Moi aussi.
Dans le 11e.
Moi aussi.
Et c'est aussi là, c'est là.
C'est la place verte.
Ah oui, et puis ouais. Pourquoi ici?
Ah, c'est toi qui as fixé le rendez-vous?
Ah, c'est moi qui ai
fixé. Ah, ouais, okay. Moi je sais pas pourquoi. Enfin, je te pose la question, pourquoi ici?
Mais parce que c'est à côté, mais.
Tu connaissais le bar?
Non, pas du tout.
Non, d'accord.
Non. Ah, mais ouais. C'est parce que je suis passé sur Google Maps et j'ai vu qu'il y avait.
Une grande terrasse.
Oui, ouais. Une grande terrasse, c'est un endroit extraordinaire pour faire.
Ah, ouais, c'est pour ça, d'accord.
Ah, mais toi, tu t'es jamais présenté ici avant aujourd'hui?
Si, ça doit être la deuxième ou troisième fois.
Okay.
Quelques fois.
Merci, Pierre.
Ah, merci à toi.
À l'envoyeur,
ouais.
Salut.
Oh, baby, bon. Baby, oh, come back, baby, I wanna make love to you. You told me that you loved me and always would be true, but now you've gone and left me, baby, and made me feel so blue. Baby, come back, baby, come. Oh, come back, baby, come. Oh, come back, baby, I wanna make love to you. Oh, baby. Baby, oh, baby, oh, come back, baby, I want you to love me too. Oh, head up now. If I was you, little baby, I'd go and hide my face. I'd like to see you find a man you think will take my place. Oh, baby, come back, baby, come. Oh, come back, baby, come. Oh, come back, baby, I wanna make love. Oh, baby, 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 baby. Oh, baby, 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 baby. Oh, come back, baby, I want you to love me too. Oh, baby, I wanna make love to you.